Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h. Il est 19h passé de 2 minutes. Nous sommes. Ah, je n'ai plus de son dans mon micro. Ah non, c'est toi qui m'as fait une blague en me coupant. C'est pas très sympa. Donc, nous sommes le mercredi 22 janvier 2020. Il est 19h passé de 2 minutes. Et de quoi va-t-on parler dans ce Canu Info ?
Eh bien, écoutez, c'est l'actualité. On va parler du mouvement social en cours, la réforme des retraites et tout ça, et tout ça.
Nous allons parler de l'inauguration du local de la campagne LREM demain à Saint-Étienne.
Des propositions de loi pour une nouvelle politique de l'immigration. On verra ça, c'est surprenant, je crois.
Nous parlerons du Liban, où le peuple est toujours dans la rue.
Ah tiens, et aussi de la proposition de loi à propos d'Internet, une loi contre les propos haineux sur Internet qui risque bien, dans la pratique, si elle passe telle qu'elle est faite en tout cas, de se retourner contre les groupes discriminés plus que de les défendre.
Et du coup, de quoi on va commencer par les brèves ?
Ah oui, c'est vrai. Alors attendez, c'est moi qui ai une paire de brèves, et c'est des brèves qui sont intitulées, On s'en fout. Alors voilà par laquelle je commence. Allez hop, Aveyron, deux points. Le baptême d'un lycée agricole du nom de Jacques Chirac fait du foin. Pour rendre hommage à Jacques Chirac, la région Occitanie a décidé de donner son nom à un lycée agricole aveyronnais. Mais un vent de fronde souffle dans l'établissement en question. Je ne vais même pas détailler. Si vraiment vous étiez passionné par cette info, je vous laisse chercher vous-même. J'en ai une deuxième. Enquête ouverte après de nouvelles menaces de mort contre Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. L'une de ces lettres faisait référence à la réforme des retraites. Et ben voilà, maintenant on peut parler de choses intéressantes.
Allez, parlons du mouvement social en cours. Après plus de 45 jours de grève, la lutte contre cette réforme des retraites continue bien évidemment jusqu'au retrait du projet, on l'espère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, lundi 20 janvier, il y a une cinquantaine de personnes qui ont perturbé la cérémonie des vœux de l'Université Lyon 1. En fait, il y avait donc le président qui, à 17h30, faisait la galette des rois. Et donc, ils ont fait l'opération La part du gâteau. Et puisque la galette, on en veut bien, et des rois, on n'en veut point. Voilà, donc ça a été assez bien joué ce lundi. Et le mardi 21 janvier, c'était les travailleurs et travailleuses de la culture qui ont invité un happening contre la réforme des retraites. Donc c'était une procession funèbre de la place de la Comédie jusqu'à la DRAC qui a eu lieu et du coup un enterrement du système des retraites par répartition. Mardi, au niveau national, il y a eu pas mal de coupures d'électricité. En fait, à Orly, Rungis, Thiers, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Chevigny-la-Rue. Donc c'est une coupure de courant qui a affecté la majeure partie de 11 villes du sud-est de Paris entre 5h30 et 8h du matin. Au total, c'est environ 35 000 clients qui ont été impactés. Ça, c'est les chiffres d'Enedis. Et bien sûr, Enedis a déposé plainte. L'action a été revendiquée par la CGT Énergie du Val-de-Marne. Et donc, bien sûr, le but, c'est de marquer le coup symboliquement contre la réforme des retraites et de mettre un coup de projecteur sur les électriciens et gaziers. Et aussi, redire que mettre des actions en place, c'est là parce que le gouvernement ne réagit pas face aux manifestations.
Et dans ces coupures, il y a eu deux agents qui ont été placés en garde à vue ce matin pour mise en danger de la vie d'autrui. Leur tort, ils sont suspectés d'avoir participé aux actions que tu disais avant. Donc là, plus précisément, ça se passait en Dordogne et c'est une usine Seveso seuil bas, ça c'est les catégories de Seveso, c'est-à-dire qu'il y a un risque lié aux matières premières qu'ils utilisent Bon, on passera sur le fait qu'il s'agit d'une usine de cosmétiques, hein, quand même, et que ces produits chimiques servent à conditionner du coup ces trucs cosmétiques. Donc maintenant, vous ne regarderez plus du tout votre salle de bain du même œil. Voilà. En gros, ça fait quand même depuis un moment que systématiquement le gouvernement un peu charge les agents d'Enedis qui participent à ces coupures, un peu sans preuve ni fondement, qui les accuse de mettre en danger les vies, que ce soit en sous-entendant qu'un hôpital a été touché ou un autre. Là, c'est une usine Seveso et c'est sûr que priver d'Elec pendant 3 heures de 11h23 à 14h23 une entreprise, et ben c'est pas non plus de la mise en danger d'autrui, ou alors ça pose deux questions. Soit on se fout de notre gueule et soit ça fait vraiment flipper, c'est-à-dire soit ça fait flipper parce que ça veut dire qu'une usine dangereuse n'est pas capable d'absorber une coupure d'Elec de 3 heures, ce qui est quand même pas grand-chose.
Et alors que par ailleurs en ce moment, en tout cas depuis quelques mois, des tempêtes ici et là, enfin je veux dire même des relativement petites tempêtes, mais ont quand même privé des endroits, des coins, des communes, et plus que des communes, des cantons entiers d'électricité, et parfois pendant une semaine, au mois de novembre par exemple.
C'est ça. Et soit en tout cas le patron de cette entreprise qui s'est empressé de porter plainte ainsi qu'Enedis se fout de notre gueule, et qu'en gros le risque n'était pas sur la personne mais plutôt sur son porte-monnaie. Et effectivement une coupure de 3 heures, eh ben ça risque de l'impacter lui sur ses thunes, quoi. Il y avait toi t'avais d'autres cibles ou pas, parce qu'il y avait d'autres cibles qui avaient été coupées. Il y avait aussi ce lundi le siège de la CFDT à Paris qui a été coupé, hein. Bon là quand même ils l'ont bien cherché. Et voilà. Et il y a aussi un barrage hydroélectrique en Isère qui a été coupé ce matin. Et c'est un site qui représente plus de 9% de la puissance du parc français. En gros, il est capable de fournir l'équivalent à 740 000 habitants leurs besoins en énergie électrique en 3 minutes. En gros, ce qu'il faut bien comprendre sur les barrages hydroélectriques, c'est qu'ils servent à réguler la tension sur le réseau. Et en période hivernale, les tensions varient beaucoup et les demandes varient beaucoup en fonction des baisses de température, tout ça. Un des moyens de pallier ça, c'est les barrages, parce qu'ils sont capables de fournir une tension, de fournir de l'électricité hyper rapidement, contrairement à tout plein d'autres énergies où il leur faut une semaine, deux semaines, une journée, deux journées pour se mettre en œuvre. Voilà. Donc, si là il y a des baisses d'énergie, ça risque de soit coûter cher, soit de foutre de la merde Enedis.
Et du coup, ce dont tu parles, en fait, c'est ce blocage a commencé mardi et c'est la centrale de Grande Maison en Isère. Cette usine hydroélectrique dont tu parles, et qui est quand même la plus puissante de France, et donc qui s'est arrêtée mardi matin, et ça a été décidé en assemblée générale par les grévistes du site, qui se sont installés donc en piquet de grève reconductible pour une durée indéterminée. Ce qui montre, du coup, vu ton info, qu'ils ont continué ce matin aussi, et que la grève continue là-bas. Et en tout cas, pour préciser par rapport à ce que tu disais, là, des condamnations des deux personnes ce matin, et je pense qu'elles vont pleuvoir, puisqu'il y a pas mal d'actions qui ont eu lieu là depuis lundi sur les coupures d'électricité. C'est qu'Edouard Philippe, mardi, a condamné vraiment ces actions et a appelé à les sanctionner. Et aussi, chaque fois que des actions touchent les bonnes cibles, donc ce qui veut dire les bonnes cibles, c'est pas nous dans notre ascenseur, nous chez nous qui emmerdés parce qu'on peut pas faire fonctionner notre bouilloire. C'est ça touche au portefeuille les patrons qui font que leur aéroport ne fonctionne pas, leur tramway ne fonctionne pas, etc. Et que ces coupures d'électricité engendrent des pertes de bénéfices. Et ben à ces moments-là, là les employés ils sont criminalisés, et puis la justice a un sacré paquet de délits à mettre contre des employés qui n'ont pas fait bien comme il faut leur travail. Du coup voilà, ça veut dire aussi que ces actions là elles marchent, puisque malheureusement il y a des sanctions, et c'est pour ça qu'il y a aussi des caisses de solidarité. Donc n'hésite pas à filer des thunes là aux caisses de solidarité, notamment pour ces deux personnes qui viennent se faire arrêter et qui ont fait ça contre la réforme des retraites, et que c'est aussi en faisant ces actions là qui sont pas que symboliques qu'on aura peut-être une chance de que ça marche, quoi. Bref, voilà. Toi, tu voulais rajouter d'autres choses. Ok. Et donc, bah, la CGT Énergie avait annoncé une semaine rythmée par les grèves et les actions. On peut dire qu'ils réussissent pas mal. On va voir les prochains jours comment ça se passera. Pour revenir au local, aujourd'hui, il y a eu des ravitaillements qui se sont faits sur les piquets de grève des cheminots. Et les cheminots, le personnel de l'éducation, les travailleurs, travailleuses du culturel sont partis en manif jusqu'à la Bourse du Travail. Ça a commencé par 300 personnes qui ont manifesté devant le rectorat contre donc les retraites, mais aussi la réforme là, des lycées, du bac, là, le 3C. Et des tas de vieux manuels scolaires ont été lancés au travail des grilles. Et ensuite, ce rassemblement est spontanément parti en manif pour rejoindre les étudiantes de Lyon 2 qui étaient rassemblées aujourd'hui pour demander le retrait des plaintes de la présidence, puisqu'il y a eu pas mal de plaintes contre des étudiants qui se sont faites de la présidence Lyon 2. Et la direction des services départementaux de l'éducation nationale a été occupée aussi par les manifestants, et puis voilà, suite de la manif. Au Havre, il y a l'opération Port Mort qui a repris ce mercredi matin pour 3 jours. Les manifestantes ont envahi au petit matin le siège administratif du Grand Port Maritime et les occupants ont symboliquement dessiné sur la façade du bâtiment les lettres formant le mot CGT en allumant les lumières aux fenêtres. Je pense que elle est assez belle la photo et ils sont bien amusés cette nuit quoi, du moins au petit matin. Et bien sûr les dirigeants là, celui-là il s'appelle Baptiste Morand, le directeur a dénoncé l'occupation illégale en menaçant de porter plainte. Donc on espère qu'il ne l'a pas fait et puis surtout qu'il est même pas allé le dire directement aux employés. Hein. Il en a fait part par Twitter. Il se protège bien, voilà. Et un barrage filtrant en début de journée a été organisé par la CGT d'Harfleur sur la ZIP du Havre. Bref, ces actions port-mort, elles se font dans pas mal de villes portuaires, à Brest et aussi dans le sud. Je vais finir là ce petit point manif en parlant des prochains jours. Et du coup, en restant plutôt en local, il y a bien évidemment demain à 7h le piquet de grève des cheminots Gare Pardieu et Perrache à rejoindre, à aller boire des cafés avec nos camarades en lutte. 16h30, il va y avoir une marche au flambeau depuis la gare Pardieu côté Villette et qui se terminera au niveau du CCVA afin de rejoindre la fête des luttes organisée par coordination des établissements en lutte de Villeurbanne de 19h à 22h. Et donc c'est en gros un appel d'une soirée intersyndicale pour faire beaucoup de pognon pour les caisses de grève. Donc n'hésitez pas à aller à cette soirée, mais n'hésitez pas à aller à la marche au flambeau à 16h30 avec votre flambeau bien évidemment. Et puis vendredi ça sera et pas jeudi justement, vendredi ça sera la manifestation interprofessionnelle comme d'habitude, 11h30, manufacture des tabacs. Et à 6h du matin, le vendredi, ça sera piquet de grève à Édouard Herriot. Donc pour aller boire un café avec les camarades en lutte.
Et pourquoi c'est vendredi? C'est parce que c'est le jour où le projet de loi est discuté en Conseil des ministres.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
On n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville. Limite le décor. Les cheminées d'usine ululent à la mort. La lampe du gardien rigole de mon style. La misère écrasant son mégot sur mon cœur. laissé dans mon sang la trace indélébile.
Ce jeudi 23 janvier à 18h30, c'est-à-dire demain, aura lieu à Saint-Étienne, d'où la chanson qui passe en ce moment, qui s'appelle justement « Tiens, Saint-Étienne », aura lieu l'inauguration du local de campagne en deux, En Marche, figurez-vous. Et donc, ce que je suis en train de dire est un article du numéro 0 qui est un appel à perturber joyeusement ces festivités. Alors, ce local, notez-le pour si jamais vous habitez à Saint-Étienne ou si vous avez les moyens de vous y rendre demain, ce local est au 29 avenue de la Libération à Saint-Étienne. Voilà, alors c'est juste ça. Et puis après, une petite question d'article qui est: y a-t-il besoin de donner des raisons? Alors bon, dans le doute, si jamais des gens ont besoin, on peut effectivement: multiplication des violences policières, autoritarisme et arrogance sans nom, destruction méthodique de tout système social, politique raciste et inhumaine vis-à-vis des personnes migrantes, mensonges, corruption, absence de politique écologique, le mandat d'Emmanuel Macron n'en est qu'à la moitié et le pays craque déjà comme jamais. Gilets jaunes, syndiqués, travailleurs, travailleuses, chômeuses, étudiants, lycéennes, retraités, avocats, avocates, médecins, pompiers, intermittents, travailleuses précaires, habitants des quartiers populaires, tout le monde est dans la rue depuis 2 ans et demi et il n'y a plus personne pour défendre ce gouvernement. 47 jours que la grève continue et depuis le 1er janvier, de nombreuses cérémonies de vœux et autres mondanités ont été perturbées par des manifestants et manifestantes un peu partout en France. À notre tour de faire savoir à En Marche à Saint-Étienne que l'ouverture de ces locaux n'est qu'une provocation de plus, tout comme celle, à bon entendeur, salut, tout comme celle du Rassemblement National à Saint-Étienne face à la Bourse du Travail.
La lampe du gardien rigole de mon style.
Mais quelle fin! Alors, un collège d'experts a adressé au gouvernement une série de mesures un peu, on pourrait dire, à contre-courant, en tout cas pas tout à fait dans la même direction que les différentes politiques migratoires mises en place depuis quelques temps. Bon, alors on va être clair direct, il n'y a vraiment, mais alors vraiment pas que des potes dans ce collège d'experts, loin s'en faut. Il y a tout de même Jean-François Carenco, ancien préfet du Rhône et quand même responsable de plusieurs camps.
On a beaucoup dit de mal à ces micros.
Tout à fait. J'ai pas son nom, mais l'ancien directeur de cabinet de Pierre Gattaz quand il était au MEDEF. Voilà. Vous imaginez à peu près. Bon, plus globalement, il s'agit de personnes issues de la haute administration, du monde de l'entreprise, du monde syndical, du monde associatif et du monde universitaire. Bon bref, tout ce beau monde s'est mis ensemble pour dire bon quand même, est-ce qu'on pourrait un peu discuter de ces questions à gros enjeux? En gros, il n'y a pas que des bonnes propositions là-dedans. Au début, j'avais lu un peu rapidement ce truc-là, je me suis dit waouh. Bon, en fait, en lisant un peu plus dans le détail, il n'y a pas que des bonnes propositions. Mais en gros, l'idée, c'est de dire que le gouvernement, bon, ils disent beaucoup ce gouvernement, mais en gros les divers gouvernements qui sont passés vont dans un sens qui est vraiment juste électoral, qui d'ailleurs, enfin, qui est vraiment basé sur l'espèce de, comment on appelle ça là déjà, bref, j'ai pas le mot, mais un peu le sentiment des gens, quoi, enfin le sentiment supposé des gens, l'opinion publique, voilà, c'était ça que je cherchais. Voilà, c'est espèce de truc qu'on imagine ce que les gens pensent d'un truc, mais voilà, mais alors qui repose vraiment sur aucun fait et aucune réalité, quoi. En gros, de façon, enfin concrètement, pour mettre autour de la même table et que les gens soient prêts à pondre un truc qui se mettent d'accord, que ça aille du MEDEF à des syndicats à des associatifs et à des universitaires. Non, parce que j'imagine il y a quand même pas que la CFDT, c'est pour ça que je dis le MEDEF et les syndicats. Voilà, c'est qu'il y a un truc qui dit bah en fait juste vos mesures elles sont purement politiques, mais elles reposent sur rien. Voilà, bon, passons aux propositions. Alors, l'idée de base, en tout cas, c'est d'ouvrir le droit des étrangers avec un droit au séjour plus simple et plus réaliste. Donc face au constat d'échecs multiples des différentes politiques mises en place et aboutissant à la mise au rebut d'un grand nombre de personnes qui se retrouvent dans des situations juste ultra dégradantes et dégueulasses, et aussi dans des situations qui s'appellent là les ni régularisables ni expulsables. Alors bon, pour ces personnes-là, le rapport préconise de les régulariser purement et simplement, les personnes qui sont déjà présentes là. Il s'agit par exemple des personnes qui sont les parents d'enfants nés en France et scolarisés, les conjoints d'étrangers en situation régulière et tout salarié en contrat ou avec une promesse d'embauche. Bon, déjà la promesse d'embauche quand même ça élargit un peu le nombre de personnes concernées. Il préconise également de sortir la politique migratoire du ministère de l'Intérieur pour la rattacher à un haut commissariat auprès du Premier ministre, ce qui aurait pour effet, on l'imagine, de mettre l'accent moins sur le sécuritaire que sur un truc un peu de politique globale.
Que la politique migratoire serait plus gérée par le ministre des flics et de la répression, quoi.
C'est ça. Et que du coup, la rattacher, par exemple, à un commissariat auprès du ministre, ça pourrait avoir comme effet un truc où en fait, eh ben, quand il y a des gens qui arrivent comme ça en France, eh ben, en fait, il n'y a pas que le côté, est-ce qu'ils ont réussi à être contrôlés ou pas, et est-ce qu'ils vont être expulsés ou pas, mais il y a le côté du travail, le côté du logement, le côté de la santé, enfin voilà, ça concerne quand même tout un tas de trucs, et le rattacher juste au ministère de l'Intérieur, donc au ministère de la Sécurité, ça incite un truc qui est là, quoi. De passer d'une durée minimum au séjour de 5 ans, contre 1 an aujourd'hui. La création d'un nouveau titre de séjour qui serait un titre de séjour humanitaire pour les personnes ne relevant pas ou ne pouvant pas relever du droit d'asile, qui lui est quand même très très restreint dans ses conditions d'accès. Et ben voilà, ben en gros pour que les personnes qui sont vulnérables, qui ont subi des violences mais qui ne relèvent pas du droit d'asile, bah en fait il préconise de créer un espèce de statut qui serait un peu intermédiaire, en tout cas voilà. Bon, ça c'est pour les bonnes nouvelles. Bon, le rapport appelle également à améliorer l'efficacité des reconduites à la frontière tout en réduisant la durée de rétention. Voilà, bon, ça c'est un peu le côté mauvaise mesure. Mais on y trouve aussi la volonté de créer un statut pour les réfugiés environnementaux. Bon, ça en parle quand même vraiment de partout depuis quelques temps. On imagine que ça commence à être un peu dans les tuyaux. On ne sait pas comment ça va se mettre en place, mais il y a quand même un peu
de toute façon, au niveau international, un jour ou l'autre, il faudra que quelqu'un se passe, parce que quand des pays vont plus exister, par exemple, parce que c'est des îles qui sont pas très en altitude et que les eaux ont monté, les gens vont bien. Ça va être difficile de les renvoyer dans leur pays dans la mesure où leur pays juste ne dépassera plus de la surface des océans.
C'est ça. Donc voilà, et autre et dernière proposition, c'est la restriction unilatérale du règlement Dublin, là, le règlement qui oblige un peu les gens à demander l'asile dans le pays par lequel ils sont arrivés en Europe, c'est-à-dire que ou dans lequel ils ont été identifiés comme tels, c'est-à-dire que ça se retrouve dans la réalité, c'est que en gros la plupart des gens arrivent par la Grèce, par l'Italie, enfin voilà, et que du coup quand les gens se sont fait contrôler dans ces pays-là et vont déposer une demande d'asile dans un autre pays, comme par exemple en France, et ben on leur dit non, c'est pas possible, votre demande d'asile est pas recevable en France, allez soit en Italie, soit en Grèce, bref n'importe quel autre pays, ce qui crée des situations complètement complètement ubuesques, on pourrait dire. Voilà. Est-ce que les gouvernements vont écouter ce collège d'experts comme ils se sont autonommés? Il y a peu de chance. Le seul truc, c'est effectivement, je trouve, ça met l'accent là sur ce truc de dire en fait la politique qui est mise en place sur l'immigration, bon, comme sur plein d'autres trucs, mais en particulier sur l'immigration, elle colle pas à la réalité et aux besoins et à tout plein de trucs qui sont, c'est de l'ordre du discours appliqué, quoi. C'est vraiment pas un truc c'est juste de la politique politicienne, quoi.
Canu Info.
Alors, eh bien, c'est quoi la suite des infos? Eh bien, ça va être un peu de l'internet.
Ah oui, c'est ça. J'avais un petit doute sur notre ordre de...
Non, non, c'est de l'Internet qu'on va parler.
Alors, l'Assemblée nationale doit examiner une proposition de loi dite de lutte contre les contenus haineux sur Internet. Bon, en gros, c'est toujours pareil, hein, c'est que sur Internet, les gens se déchaînent puisque c'est facile de dire des tas de saloperies derrière son clavier. On n'est pas trop face aux gens qu'on insulte et du coup, bon endroit, bonne possibilité, et vas-y Facebook, et vas-y Twitter, et vas-y n'importe quoi, n'importe où. Le gouvernement, qui s'est bien connu, défend les minorités et les personnes opprimées. Alors, quand on en parle comme ça, c'est un peu plus compliqué. Bon, bref, en tout cas, a décidé de faire une proposition de loi. Et sauf que, alors, tout un paxon de militantes féministes, LGBT, antiracistes, et alors, avec des gens, toutes sortes de gens, finalement. Certaines personnes dont on a pu relayer la parole ici à des moments, d'autres personnes où on l'aurait sans doute moins fait. Mais en tout cas, on signait une tribune dans Libé. Où elles expliquent qu'en fait cette loi risque surtout de se retourner contre les personnes qu'elle est censée finalement protéger. Je vais lire des bouts de cette tribune. Cette loi obligera les plateformes à supprimer en 24 heures tout contenu manifestement illicite qui leur sera signalé. Ça c'est la formulation dans la loi, manifestement illicite. Mais la mission de juger si un contenu est illégal ne sera alors plus entre les mains de la justice, ça sera les plateformes elles-mêmes qui devront juger. Et du coup, ces plateformes devront mettre en place des procédures pour décider toutes seules si des contenus sont illégaux et les supprimer si jamais ils sont illégaux. C'est-à-dire, par exemple, si vous écrivez un appel à buter les Arabes sur Internet, c'est illégal. La plateforme doit le supprimer. Si ces plateformes manquent à cette obligation de suppression, elles risqueront de très lourdes sanctions financières. Donc vous écrivez sur Internet, il faut buter tous les Arabes. Vous l'avez écrit sur Twitter. Twitter laisse le tweet. Là, il risque de raquer un max. À l'inverse, supprimer ce contenu, supprimer un contenu licite, c'est-à-dire si vous avez écrit « je vais manger chez ma grand-mère » et que Twitter le supprime, ça, aucun risque pénal. On va pas condamner Twitter à des grosses amendes parce qu'ils auront supprimé que vous êtes allé manger chez votre grand-mère. Et cela ne gênera pas les plateformes qui pratiquent déjà massivement la suppression ou la limitation de la diffusion de contenus parfois parfaitement légaux. On se souvient qu'il y a eu des polémiques de dingue avec des histoires d'art sur Facebook qui avaient classé comme contenu pornographique des peintures. Là, je pense à l'origine du monde par exemple, mais en tout cas de siècles antérieurs, des peintures qui sont au panthéon de la grande peinture, mais des peintures de nus et qui avaient été jugées comme étant pornographiques et donc dégagées de Facebook. Un des dangers de cette loi est qu'elle se retourne contre les journalistes, militantes, chercheuses et chercheurs qu'elle prétend défendre. Alors que le discours raciste, lui, est fortement banalisé dans le champ médiatique, personne ne sait exactement quel contenu devrait être considéré manifestement illicite en ligne. Parfois, il y a plein de trucs qui peuvent être un peu limites, et il y en a plein qui passent, de fait, à la télé, que nous, on ne laisserait pas passer à Radio Canu, par exemple, mais qui passent sur d'autres chaînes ou d'autres radios, contre lesquelles personne ne porte plainte. Le système de sanctions poussera les plateformes à supprimer tous les contenus sur lequel il y aurait le moindre doute, et il vaudra mieux pour ces plateformes qualifier d'illicite un contenu licite, c'est-à-dire trouver qu'un truc est trop raciste, même si en fait ça l'est pas, que de prendre le risque de faire l'inverse. Bon, jusque-là, on peut se dire, ok, ça risque juste d'être un excès de zèle, et peut-être des gens qui diraient des trucs légèrement racistes, mais quand même dans le cadre de la loi, risqueraient de se faire virer d'Internet, ce serait pas très grave. Oui, mais les volumes postés sur les plus grosses plateformes, Twitter, sont tels que les filtres de contenu sont déjà en grande partie automatisés. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est payé par Twitter pour lire tous les tweets qui sortent, bien sûr. Il ne faudrait pas payer une personne, il faudrait en payer des milliers et des milliers, et ça ne serait pas évident. Et du coup, c'est des filtres automatiques avec des algorithmes qui, finalement, fonctionnent très mal. En particulier, ces algorithmes échouent à différencier un discours de haine contre une minorité d'un discours de lutte contre cette haine. C'est ça, c'est que si à un moment vous dites un truc homophobe, ça va être bloqué par l'automate. Mais si vous dites un truc contre l'homophobie, il y a des chances que vous utilisiez le mot PD, par exemple. L'automate va le repérer et va le bloquer. La loi poussera les plateformes. Par exemple, les plateformes justement limitent déjà souvent la diffusion de contenu sur l'homosexualité, y compris par des groupes de défense des homosexuels. La loi poussera les plateformes à durcir ces filtres automatiques et donc elle risquera d'entraîner une censure massive de contenus licites. En premier lieu, les contenus produits par celles et ceux qui dénoncent les violences en ligne. De plus, la version actuelle du texte prévoit des sanctions, prévoit la sanction de celles et ceux qui auraient abusivement alerté sans que soit défini l'abus. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être abusif, qu'est-ce qui ne va pas être abusif, ni qu'on sache qui va les sanctionner et de quelle façon. Autant dire, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais par contre, ça peut à plein de moments. Du coup, c'est cette espèce de protection de on ne sait pas bien qui, à plein de moments, ça peut surtout dissuader des gens d'alerter sur des contenus haineux, puisque si vous vous baladez sur Internet, vous tombez sur un truc antisémite, par exemple, et vous dites, ah bah là, quand même, je vais le signaler. Mais là, vous direz, ouh, mais attendez, c'est qu'il y a quand même une sanction pour les gens qui ont abusivement alerté. Est-ce que c'est vraiment assez antisémite? Est-ce que si j'alerte à ce moment-là, ça va quand même être peut-être un petit peu abusif? Voilà, voilà. Les injures sexistes, LGBTI-phobes et racistes en ligne sont fréquentes et largement impunies dans l'état actuel des choses. Lutter réellement contre ces injures, ça nécessiterait autre chose qu'un désengagement de l'État dissimulé derrière un coup de communication. C'est-à-dire que l'État, de toute façon, pour ne pas avoir à s'en occuper lui-même, il rebalance toute la responsabilité sur les plateformes. En mettant en place sciemment le contournement de la justice et la sous-traitance de la censure au privé, donc aux plateformes, la loi qui est proposée ouvre par ailleurs la voie à des tentatives de censure administrative. Des signalements abusifs ont déjà eu lieu. En janvier dernier, la police française, a signalé à Google comme étant raciste une caricature d'Emmanuel Macron qui était représentée sous les traits du dictateur Pinochet. Donc là, c'est les flics qui étaient allés voir Google pour dire « Ah mais attention, ça c'est raciste, vous allez avoir des problèmes parce que c'est raciste ». En réalité, nous disent les signataires de la Tribune, les pistes d'amélioration du système judiciaire sont quand même nombreuses. Les plaintes pour injures, agressions, discriminations sont trop peu nombreuses à aboutir, mais pour le coup, ça c'est il n'y a pas besoin de changer la loi pour ça. La seule chose dont il y aurait besoin, sur les plaintes qui aboutissent, rares sont celles où le caractère sexiste, homophobe, transphobe, raciste est effectivement retenu dans le jugement. Et donc ce qu'il faudrait en fait, c'est juste filer plus de moyens et plus de formation à la justice, pour le coup. Là-dessus, justice, avocat, et qui est des gens dans ces administrations-là qui puissent avoir le temps, la disponibilité et la formation pour se pencher réellement sur les injures en ligne. Mais l'État, plutôt que de relâcher de la thune là-dessus, il fait une loi qui fait que lui n'aura plus aucune responsabilité et que ça sera uniquement les plateformes qui auront la responsabilité. Et donc les plateformes, on a bien compris, elles, leur politique, ça va être surtout d'empêcher qui que ce soit de parler de quoi que ce soit, plutôt que de risquer des grosses amendes. Voilà, ce qui fait que tous ces gens qui sont militants, militantes en particulier, contre les discriminations, au sens large, racistes, sexistes, homophobes, ne sont pas du tout contents et contentes de cette loi qui est censée les protéger et les défendre.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et oui, il y a pas qu'en France que les gens sont dans la rue. Et il y a beaucoup de gens qui sont justement pas en France et qui sont dans la rue, puisque au Liban, le peuple continue se défendre face à la police, mais pour contester contre le gouvernement. En fait, le Liban s'est doté mardi, hier, d'un gouvernement dirigé par Hassan Diab. Près de 3 mois après la démission de Saad Hariri, sous la pression de la rue. Mais sauf que la rue rejette d'ores et déjà cette nouvelle équipe. Donc, ce nouveau Premier ministre, Hassan Diab, est un universitaire de 61 ans et qui a averti aujourd'hui que son pays est au bord de la faillite et fait face à une catastrophe et promet des réponses aux défis immenses qui attendent son gouvernement, confronté à une contestation sans précédent. Donc, il essaye de garder la face alors que, juste au moment où il vient d'être mis en place, eh bien, bah, la colère de la rue ne faiblit pas et a réaugmenté donc depuis son élection, sa mise au pouvoir. Des heurts ont éclaté encore aujourd'hui près du Parlement à Beyrouth. Des manifestants, vous voyez, des pétards, des pierres contre la police anti-émeute qui réplique en actionnant des canons à eau, des scènes classiques de manifestations de rue. Des manifestants ont arraché des barbelés et tenté de démonter un grand portail en fer installé par les forces de l'ordre pour bloquer une avenue menant au Parlement. Parce que voilà, les gens essayent d'aller détrôner ce nouveau gouvernement. Et donc, pour rappel, c'est depuis le 17 octobre qu'il y a des manifestations au Liban. Les ministres restent des personnalités affiliées à la classe politique qu'ils accusent de corruption et d'incompétence. Le 17 octobre, ce mouvement s'est mis en place, il y avait une saturation face à la corruption de l'État. Et du coup, beaucoup de personnes de la société civile se sont emparées. Voilà, le craquage face à la corruption. Et du coup, pourquoi ça continue? C'est que, ils considèrent que les nouvelles personnes qui sont au gouvernement sont juste les amis des politiciens corrompus. Donc c'est la même merde, c'est la même chose quand les Algériens actuellement refusent les nouvelles élections, parce que c'est la même classe dirigeante qui est au pouvoir
parce
et qui le maintient.
Tous ces gens dans les manifs demandaient pas le départ d'une personne, demandaient plutôt le départ vraiment d'une classe de personnes, et cette classe, elle, n'a pas du tout bougé du pouvoir, que ce soit en Algérie ou au Liban.
Ouais, et donc qu'est-ce que... Oui, j'ai parlé de Bagdad, mais à Tripoli, il y a aussi beaucoup de manifestations. Aujourd'hui, des routes ont été bloquées, tandis que des écoles sont restées fermées. En 3 mois donc de contestation, la colère n'a fait que grandir chez les manifestants. Et voilà, parce que c'est la demande d'un renouvellement complet d'une classe dirigeante. Et je voulais finir avec une citation. Nous allons poursuivre l'escalade dans la rue jusqu'à la chute du gouvernement. Nous refusons totalement le gouvernement de Hassan Diab. Ce n'est pas une équipe de technocrates indépendants et elle ne répond pas aux exigences populaires de la révolution. Donc ça, c'était des manifestantes qui ont lancé ça mardi à Tripoli. Et on va conclure ce Canu Info pour, en parlant aussi de l'Irak, puisque les luttes dans la rue ont repris. Ces quelques dernières semaines ont été un peu d'accalmie en Irak dans les rues, mais les manifestants anti-pouvoir ont repris ce week-end dans les rues à Bagdad et dans le sud du pays. Une colère bien évidemment légitime par le manque de réponse du gouvernement. Et début octobre, les manifestants demandaient des élections anticipées pour renouveler la classe politique et des réformes d'ampleur contre la corruption endémique dans le pays. Et comme ces demandes sont restées pour leur lettre morte, ces élections anticipées, ces réformes de la loi électorale, le premier ministre indépendant, la fin de la corruption et la répartition des postes politiques en fonction des ethnies et des confessions, les gens sont retournés dans la rue. Et donc, juste pour faire un point, hier et aujourd'hui, blocage des rues et des autoroutes autour de Bagdad et dans le sud, à majorité chiite. Et mardi, les forces de sécurité et les manifestants anti-gouvernementaux se sont affrontés sur l'autoroute Mohamed Al-Qassim, dans le centre de Bagdad. Des manifestants ont lancé donc des cocktails Molotov pour répliquer au gaz lacrymogène et aux balles réelles des forces de sécurité irakiennes. Et là, en Irak, donc, il y a eu plus de 460 personnes qui sont mortes depuis le début de la contestation en octobre. C'est pas longtemps, hein. En octobre, c'est 3 mois. Et donc, les manifestants exigent maintenant des comptes et que justice soit rendue dans le cadre de la répression du mouvement. Puisque, encore lundi, 3 manifestantes ont été tuées à Bagdad dans des heurts avec les flics. Et il y a eu aussi une autre militante qui est morte mardi, alors puisqu'une grenade lacrymogène a fracassé son crâne. Donc là, il y a des ONG qui montrent que, en gros, les armes de la police utilisées par les forces de l'ordre irakiennes sont des armes de guerre et non des armes de maintien de l'ordre. Plein de chipotages, j'ai envie de l'appeler du chipotage parce que en fait il y a des morts, mais qui sont importants parce que ça permet de faire réagir et de dire en fait là c'est pas les bonnes armes utilisées, attention. En attendant, bah les manifestants s'insurgent et retournent dans la rue et c'est très violent quoi, et c'est la guerre sociale comme d'habitude. Et voilà, et on va s'arrêter là pour ce soir.
Eh bien, il est 19h43, vous allez avoir quelques minutes, un quart d'heure en gros, de monde continu, et après vous écouterez Idées Noires.
L'émission de l'UCL, l'Université catholique lyonnaise. L'Union communiste libertaire.
Et on peut rappeler les prochains rendez-vous?
Et oui, je peux dire quand même un petit truc, c'est que vendredi à 18h, l'émission On n'est pas des cadeaux, l'émission transpédéguine et féministe de Radio Canu sera une émission hors les murs. Donc écoutez-la ou venez à Terre des Livres, une librairie de la rue de Marseille dans le 7e arrondissement de Lyon, où il y aura justement un plateau en direct pour parler du livre Stone Butch Blues, qui est un livre qui a été traduit cet automne. Et voilà.
Et donc c'est l'occasion d'assister en direct, on n'est pas des cadeaux, à la librairie Terre des Livres, c'est ça que tu dis?
Exactement.
En mixité, en non-mixité?
Non, en mixité, tout le monde peut venir, venez écouter, on va parler des questions de butch et de dynamique butch-femme, et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, venez écouter, ou ouvrez votre poste si vous ne pouvez pas venir. Mais...
Et alors, la librairie Terre des Livres, c'est au 86 rue de Marseille. Et bien, dans la lutte sociale en cours, il y a demain, jeudi 23 à 16h30, la marche au flambeau. On en a parlé un peu plus tôt dans ce Canu Info. Et bien sûr, vendredi, manif interpro à 11h30 à la manufacture des tabacs. Et également, il y a une soirée de soutien aux ex-habitants de l'Amphizède, vendredi 24 janvier. C'est une soirée festive et musicale qui aura lieu au Grand Zéro à Vaux-en-Velin. Et c'est ce vendredi à partir de 29, entrée prix libre. Voilà, puis tout un tas d'autres rendez-vous. Je sais pas, allez voir l'agenda de rébellion, puis vous trouverez bien. En attendant, merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez la semaine prochaine.
Et d'ici là, on se retrouve dans la rue les prochains jours, et notamment vendredi.
Bonne soirée.
Ciao.
Ciao.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
rebelle des radios.